VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Il est 19h à Ouagadougou, 20h à Bangui. Dans 10 minutes, le dialogue des religions présenté par Idrissa Sédoudia. Mais auparavant, voici notre journal. Aujourd'hui dans l'actualité africaine, en Tunisie, 21 morts, y compris les assaillants, 38 blessés, des touristes pour la plupart. C'est le dernier bilan de l'attaque contre le musée du Bardo à Tunis. Bilan annoncé par le premier ministre tunisien Habib Essid. Des hommes armés ont ouvert le feu sur les visiteurs. Selon la télévision nationale tunisienne, l'opération de la police est terminée. Tous les touristes ont été évacués. Les détails de cette journée sanglante avec Salwa Jaafari.
C'était une journée comme les autres au musée du Bardo. Un bus rempli de touristes venait de se garer devant l'entrée. C'est alors que des hommes vêtus d'uniformes militaires ont ouvert le feu sur les passagers, les ont ensuite pourchassés à l'intérieur du bâtiment. Un carnage, des Polonais, des Italiens, des Allemands, des Espagnols tombent sous les balles. Deux Tunisiens, un policier et un civil sont également parmi les victimes. Les premières informations parlaient de prise d'otages. Le premier ministre français en a même fait allusion ce matin. L'information est plus tard écartée par les autorités tunisiennes. La télévision nationale a annoncé la fin de l'opération de sauvetage et la mort de deux assaillants. Leur identité, toujours inconnue, aucune revendication pour l'instant. Coïncidence ou pas, cette agression intervient au lendemain de la confirmation par Tunis de la mort en Libye d'un suspect dans une attaque terroriste ayant donné lieu au meurtre de deux figures de l'opposition. Le musée Bardo, un palais vieux de 6 siècles, l'un des joyaux du patrimoine culturel tunisien. L'attaque d'aujourd'hui est indéniablement un nouveau coup dur au tourisme national, à peine remis des conséquences du printemps arabe.
Et plusieurs centaines de Tunisiens ont commencé à se rassembler mercredi soir à Tunis pour dénoncer l'attaque du musée du Bardo. Réunis face au théâtre de l'avenue Habib Bourguiba, sur l'artère principale du centre-ville, des manifestants de tous les âges ont brandi des drapeaux tunisiens en scandant des slogans hostiles aux terroristes et en entonnant l'hymne national tunisien. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé l'expulsion prochaine des militants pro-démocratie sénégalais et burkinabés arrêtés ce week-end à Kinshasa. Une affaire qui illustre la crispation du climat politique en RDC à l'approche de la présidentielle de l'an prochain. On écoute Lambert Mende, le ministre congolais de la communication et le porte-parole du gouvernement.
Nous avons suivi la déclaration pleine de bon sens du chef de l'État sénégalais, Monsieur le Président Macky Sall. Il s'est refusé de porter un jugement sur le bien fondé ou non d'une démarche entreprise par un État souverain, la République démocratique du Congo, à l'intérieur de ses frontières, sur des événements qui se sont déroulés chez elle et qu'il s'est contenté d'appeler à la libération de ses compatriotes. Il va de soi que le président Joseph Kabila, notre chef de l'État, dans son souci de consolider l'unité et la cohésion du continent, ne doit pas souffrir de l'inconséquence de quelques irresponsables à réserver une réponse favorable à ce vœu exprimé par son homologue sénégalais, le président Macky Sall. Et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution et les lois de notre pays, le président de la République vient de décider d'ordonner l'arrêt des poursuites contre les 4 sujets sénégalais et burkinabés qui ont toutefois été déclarés personae non grata en République démocratique du Congo par le gouvernement de la République. Ils sont donc maintenant occupés avec nos forces de sécurité à préparer leur expulsion du territoire de la République démocratique du Congo par le premier moyen possible vers leur pays respectif.
Lambert Mende, le ministre congolais de la communication et porte-parole du gouvernement de la RDC. En République centrafricaine, la MINUSCA déplore la mort de 8 personnes tuées ces derniers jours au nord du pays par un groupe armé non encore connu. La force onusienne assure que des mesures sont déjà prises pour sécuriser la population de cette localité face à ces attaques du même genre. Le point avec Félix Yepassis Zembrou.
Au cours de sa conférence de presse hebdomadaire, la force onusienne en Centrafrique, la MINUSCA, a déploré la mort de ces 8 personnes tuées dans une attaque d'hommes armés inconnus à Ngaoundaï. Selon le lieutenant-colonel Adolphe Manirakiza, porte-parole militaire de la force onusienne en Centrafrique, des dispositions sont déjà prises pour sécuriser la population.
La force de la MINUSCA déplore la mort de 8 personnes tuées à Ngaoundaye par des bandits armés qui oscillaient entre les frontières camerounaises, tchadiennes et centrafricaines. Elle rassure la population que tout est en train d'être fait pour démanteler ce groupe et prévenir des attaques du genre. La force de la MINUSCA tient à démentir l'information diffusée disant que la population de Ngaoundaye a averti les forces de la MINUSCA de la localité de l'arrivée de ce groupe de criminels et que la force de la MINUSCA n'a rien fait pour protéger la population.
La MINUSCA a par ailleurs assuré qu'au cours de ses opérations de sécurisation la semaine écoulée, elle a fait 6748 patrouilles aériennes et terrestres. 3 barrières illégales ont été démantelées sur l'axe Sibut, un bandit a été arrêté et un autre abattu sur le même tronçon. De son côté, la police onusienne a aussi mené plusieurs opérations de sécurisation à Bangui, Bria et Bambari. Des actions en coordination avec les forces de sécurité intérieure.
À Freetown, le président Ernest Bai Koroma a limogé son vice-président. Cette annonce met fin à une crise au sommet de l'État sierra-léonais, ouverte par l'exclusion du parti au pouvoir, qui avait demandé l'asile aux États-Unis, se disant en danger. Crise politico-militaire au Soudan du Sud. Après 15 mois de conflit, le président Salva Kiir n'accepte pas que son rival Riek Machar redevienne son vice-président dans le cadre d'un partage du pouvoir. La médiation menée par l'organisation est-africaine LIGAD avait donné jusqu'au 5 mars aux deux hommes pour qu'ils s'accordent, et ce qu'ils n'ont pas réussi à faire.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Dans le reste du monde, en Israël, Benjamin Netanyahou se retrouve ce mercredi en situation de former une nouvelle majorité gouvernementale. Le Premier ministre sortant a mené son parti de droite, le Likoud, à une victoire haut la main aux élections législatives d'hier. Victoire qui a pris plus d'un de court, surtout face à des sondages très défavorables. Que signifie ce succès personnel de Benjamin Netanyahou pour les relations palestiniennes ? Mais aussi celle avec les États-Unis. Pour des éléments de réponse, Jacques Aristide s'est entretenu avec le chef de la VOA, du bureau de la VOA à Jérusalem, Scott Bob.
Ce qui a pris par surprise, c'était le fait que la veille du vote, les sondages publics démontraient les deux partis, c'est-à-dire le centre-gauche et le centre-droite, coude à coude. Mais l'espace de quelques jours, le Likoud a pu gagner 6 sièges sur la gauche. Donc, mais d'après certains analystes, ces votes sont venus de la droite même, donc c'est-à-dire le Likoud a cannibalisé dans un certain sens la droite plus extrême pour démontrer cette grande victoire.
Scott Bob, le chef du bureau de la VOA à Jérusalem. La Maison-Blanche a réaffirmé mercredi son soutien à une solution à deux États au lendemain de la victoire donc de Benjamin Netanyahou, malgré le fait que M. Netanyahou a enterré il y a quelques jours l'idée d'un État palestinien. L'armée syrienne a affirmé mercredi avoir abattu un drone américain suspecté d'espionner ses forces, ce qui apparaît comme la première attaque de Damas contre des appareils de la coalition luttant contre le groupe islamique. 17 djihadistes ont été arrêtés depuis les attentats de Paris début janvier. Les autorités italiennes citées par l'AFP disent aussi avoir procédé à 33 expulsions. Les contrôles visent les loups solitaires et le retour des jeunes partis combattre en Syrie. De violents heurts qui ont fait une trentaine de blessés ont marqué l'inauguration mercredi du nouveau siège de la BCE à Francfort. Le collectif Blockupy, qui avait appelé à manifester, a évoqué en fin de journée 20 000 participants à cette manifestation contre l'austérité. Enfin, pour finir sur une note plus culturelle, le musée le plus visité au monde, le Louvre, organisera en 2016 une grande exposition consacrée à la Mésopotamie en réponse au saccage des sites archéologiques par le groupe État islamique. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, en direct, le dialogue des religions présenté par Idrissa Sédoudia. Bonne soirée à l'écoute de VOA Afrique. Soyez au